Rôle et statut des femmes. Le statut des femmes dans l'islam est l'un des points qui suscite une attention particulière chez les Occidentaux. Ceux-ci s'insurgent contre le fait que les femmes musulmanes soient, selon eux, considérées comme des citoyennes de seconde zone. Je partage leurs préoccupations, mais je suis également d'accord avec les critiques musulmans qui précisent qu'il y a encore 100 à 150 ans, les femmes avaient plus de droits au plan juridique comme au plan économique dans bon nombre de pays musulmans que dans les pays occidentaux. En outre, les penseurs aussi bien musulmans qu'occidentaux sont d'accord pour dire que dans les premiers temps, les prescriptions coraniques concernant les femmes ont marqué une avancée au plan juridique, social et économique comparée à ce qui existait avant l'islam. Selon certains, et j'en fais partie, par la suite, la place des femmes s'est détériorée dans certaines parties du monde musulman, non pas à cause du Coran, mais au contraire, à cause du fait que l'on s'est éloigné de l'esprit du Coran. L'islam revendique une politique où la séparation n'exclut pas l'égalité en ce qui concerne les femmes. Il est intéressant de remarquer que certains auteurs hindous se situent dans la même optique et arguent du fait que les perceptions occidentales du traitement injuste des femmes dans l'hindouisme ou l'islam sont surtout dues au manque d'appréciation des rôles complémentaires de l'homme et de la femme et du grand respect dans lequel sont tenues les femmes. Quand on a passé une partie de sa jeunesse dans le sud des États-Unis d'Amérique, où les Noirs étaient censés être à part, mais à égalité, écoles séparées, postes d'eau potable, séparés et ainsi de suite, on peut se montrer sceptique quant à la légitimité de cette revendication égalitaire. Les femmes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes au plan religieux. Elles doivent cependant se tenir à l'écart dans les parties réservées aux femmes dans les mosquées, et elles ne peuvent pas diriger la prière d'une communauté si un homme est présent, puisque c'est l'homme qui doit assumer la fonction de direction dans la sphère publique, tout comme la femme le fait dans la sphère domestique. Les soufis font exception dans la mesure où le mysticisme fait abstraction des frontières sociales, même si l'élément féminin est encore absent des séances publiques de méditation. Les filles doivent être accueillies avec joie à la naissance. Étant donné qu'en Arabie, à l'époque pré-islamique, les garçons étaient préférés, sourate 43:17, les petites filles étaient souvent tuées dès la naissance. Sourate 81:8-9. Le Coran condamne cette pratique. Les traditions prophétiques disent toutes qu'un musulman doit se réjouir à la naissance d'une fille comme à la naissance d'un garçon. Cependant, les cas d'infanticide féminin ont assurément continué, et comme dans beaucoup de sociétés, en Chine par exemple, les familles musulmanes traditionnelles ont continué à se réjouir à la naissance d'un fils et à considérer la naissance d'une fille comme un fardeau, indépendamment de ce que la religion les invite à faire. La part d'héritage d'une fille correspond à la moitié de celle d'un garçon. Pour les musulmans, cela s'explique par le fait que le garçon doit subvenir aux besoins de sa femme, tandis que la fille est libre de faire ce qu'elle veut de sa part, d'autant plus qu'à son mariage, elle reçoit une dot. Le Coran, sourate 2, 221, 60, 10, interdit explicitement aux femmes musulmanes d'épouser un homme non musulman, mais permet à un musulman d'épouser une femme non musulmane. Le but est d'empêcher un musulman de quitter l'islam, tandis que l'on pense qu'une femme sera plus encline à adopter la religion de son mari. Les femmes doivent être voilées. Le texte spécifique du Coran s'applique aux épouses de Mohammed. Sourate 33:53. Deux autres textes, sourate 24, 31-32, 33-60, parlent des femmes musulmanes qui couvrent leur poitrine et portent un manteau ample quand elles sortent. Certains interprètent ces textes de façon radicale, en disant que la femme doit complètement se couvrir de la tête aux pieds, y compris le visage. Beaucoup de femmes musulmanes comprennent ces textes comme une recommandation à se vêtir avec décence et à couvrir leurs mains, mais pas nécessairement leur visage. Pour aller plus loin, on ne peut pas nier que le code vestimentaire des femmes soit un sujet polémique dans l'islam. Concernant le cas français, écoutez le chapitre 16. Au cours des siècles, les styles de couvre-chef et de voile pour les femmes musulmanes ont considérablement évolué. Tout le monde a déjà vu ces images de femmes en Iran, en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, couvertes intégralement de la tête aux pieds, avec simplement une ouverture laissant à peine voir les yeux. Ce type de vêtements peut varier d'un pays à un autre. Abaya, tchador et burqa ne sont pas des synonymes, mais tous sont des espèces de manteaux amples qui couvrent le corps tout entier. Le kimar est un voile qui couvre toute la tête jusqu'à la poitrine et peut se combiner avec un djilbab qui couvre le reste du corps. Le hijab est le terme générique pour un voile de quelque type qu'il soit, à condition qu'il cache réellement le visage. Pour affirmer leur identité musulmane dans les villes comme le Caire, beaucoup de femmes dont les mères ou les grands-mères avaient rejeté le voile ont désormais opté pour le port du voile. Les avis sur le fait de confiner les femmes à la maison varient considérablement. Les intégristes disent que les femmes doivent rester à la maison, qu'elles ne peuvent sortir, voyage y compris, qu'avec leur mari ou d'autres hommes de la famille, et qu'elles ne peuvent travailler que dans des environnements exclusivement féminins. L'Arabie Saoudite a un centre commercial moderne réservé exclusivement aux femmes. En réalité, dans la plupart des pays musulmans, les femmes sont plus présentes dans le paysage public que ne le suggère cette évocation.